RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Nous saluons notre invité Gaspard Ganzer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien conseiller en communication de François Hollande et vous êtes fondateur du mouvement Parisienne Parisien. Et votre objectif, c'est de prendre la mairie de Paris. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas candidat officiellement. Donc merci en tout cas d'être avec nous. Donc vous avez été aux côtés, je le disais, de François Hollande. Il y a 3 ans, le 13 novembre 2015, l'un des attentats les plus meurtriers à Paris, le Bataclan et sa longue liste de victimes dans la salle et aux terrasses des cafés. François Hollande s'était rendu sur place, un moment, j'imagine, auquel vous repensez souvent et vous y repensez comment ?
Avec beaucoup de tristesse et d'émotion. Je me souviens quasiment de chaque minute, de chaque seconde de cette soirée-là, depuis le moment où nous avons entendu les détonations au Stade de France jusqu'au terme de cette soirée qui s'était terminée par un coup de téléphone entre Barack Obama et François Hollande à l'Élysée. On repense évidemment aux 130 morts, aux quasiment 400 blessés, à toutes ces familles endeuillées, tous ces corps déchiquetés.
Vous êtes entré, vous, dans la salle avec le...
Non, je ne suis pas rentré dans la salle. En revanche, on est allé à quelques mètres de la salle, justement à l'endroit où on voyait ces hordes de gens sortir du Bataclan apeurés. On a vu aussi un bar juste à côté qui était transformé en forme d'hôpital de campagne. Il y avait un parfum de sang, de poudre, et c'était absolument épouvantable. Et vraiment, c'est des moments que j'aurais préféré ne jamais avoir à vivre. Heureusement, dans les jours qu'on suivit... le pays a montré qu'il était plus fort et il a su se ressaisir.
Pour un président de la République, évidemment, un moment comme celui-là est d'une tension particulièrement exceptionnelle, dramatique. Quelle image vous gardez de François Hollande dans ces moments-là du 13 novembre ?
Je me souviens quand même de sa tristesse et quand il a compris et que nous avons tous compris au Stade de France qu'en réalité l'attaque ne se limitait pas au Stade de France, mais qu'il y avait plusieurs attaques en cours à Paris. Et je ne l'ai jamais senti perdre son sang-froid. Pourtant, comme nous tous, il y a un voile de tristesse qui est passé devant ses yeux, parce qu'évidemment, c'était épouvantable. On sentait qu'on allait rentrer dans l'incroyable, un bilan qui allait être incroyablement meurtrier, et qu'il allait falloir tenir bon. Et moi, je suis extrêmement fier d'avoir été à ses côtés à ces moments-là, avec tous les autres, avec Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Laurent Fabius, Le Drian et tous les collaborateurs. Parce que c'était des moments quand même très durs.
Alors, bien sûr, vous n'êtes pas Madame Irma, mais est-ce que vous pensez que le pire est derrière nous et que cette série d'attentats avec Charlie Hebdo a permis aux services anti-terrorisme, d'être plus performants et que dans le fond, là, c'est vrai, depuis quelques années, on n'a pas vécu de drame et de drame pareil. Est-ce que du coup, ces attentats ont aussi permis d'être plus performants?
Je veux croire que le pire est derrière nous, mais j'en suis pas du tout certain, ouais. Parce que je crois qu'on est toujours dans un monde aussi dangereux, dans lequel le terrorisme, notamment islamiste, est encore extrêmement puissant. Et puis il y a d'autres formes de terrorisme qui se développent. On a vu les suprémacistes blancs aux États-Unis commettre des fusillades absolument terribles. Donc je pense qu'il faut surtout pas baisser la garde. Incontestablement, les services de sécurité, les services secrets, les services de renseignement ont progressé au cours des dernières années. Malheureusement, on aurait préféré se dispenser de cette courbe d'expérience qui a permis d'améliorer leur efficacité face aux épreuves. Mais je crains qu'il ne faille surtout pas relâcher la pression ni l'attention, parce que le pire peut toujours arriver.
Alors vous avez, je le disais, été le directeur de la communication de François Hollande. On a reproché à l'ancien chef de l'État une présidence bavarde, un François Hollande qui tergiverse sur sa politique économique, qui ne tient pas les frondeurs. Bref, on lui a presque tout reproché. Emmanuel Macron a voulu faire le contraire de François Hollande en termes de comme politique, être distant et jupitérien. Et dans une interview, vous dites... Dans l'entourage de Macron, ils considèrent qu'on a tout raté, donc ils veulent pas me voir, parce que c'était une question, c'est est-ce que vous voyez les gens de l'Élysée, et est-ce que vous considérez qu'eux ont mieux réussi que vous, en tout cas jusqu'à maintenant, en com' politique ?
Je pense que c'est, on va dire, à la fin du mandat qu'on le jugera. Je pense qu'ils expérimentent des choses en termes de communication, ils essayent. Nous, on n'a pas réussi à trouver toutes les bonnes recettes. Eux non plus pour l'instant, ils n'ont pas trouvé le bon équilibre entre on va dire, la verticalité de la parole présidentielle et l'horizontalité du débat démocratique. Et il faut qu'il continue de chercher pour le trouver. C'est très difficile parce qu'il y a une accélération continue du temps médiatique, parce que l'exigence des citoyens est toujours plus forte, parce que l'information est mondialisée. Mais il faut qu'ils y arrivent. Parce que s'il n'y a plus de capacité à expliquer aux Français ce que l'on fait, les actions que l'on conduit, les décisions que l'on prend, eh bien, la distance ne fait que s'allonger et s'agrandir avec les citoyens, et ça, c'est un problème. Donc, c'est à la fin du quinquennat qu'on le verra. Je souhaite qu'ils y arrivent. Pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés.
Vous disiez la difficulté à expliquer, et au fond, c'est le discours qu'on entend presque chez tous les dirigeants depuis des décennies. On a mal expliqué nos réformes. Mais est-ce que ça, c'est pas justement un discours de communication? Est-ce que parfois, le dirigeant ne devrait pas se dire peut-être que je me trompe, peut-être que je ne vais pas dans la bonne direction, au lieu d'asséner sans cesse l'idée que ce serait juste parce que c'est mal expliqué et donc mal compris?
Alors je pense que parfois on explique mal, mais les mauvaises explications ou la mauvaise communication n'excusent jamais la mauvaise politique et les mauvais choix. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, chacun a fait des erreurs dans ses décisions et dans les actions qu'il a pu conduire. Et il y a que ça qui compte, la communication, c'est que la phase émergée de l'iceberg. Ce qui compte, c'est le fond de la politique que l'on conduit. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense que les hommes politiques et les femmes politiques en France ne reconnaissent pas assez facilement, ou ce n'est pas naturel pour eux, de reconnaître qu'ils ont commis des erreurs. Il n'y a pas de mal à reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on a eu un mot qui est parti de travers, une décision qui n'est pas allée dans le bon sens, une action qui a été mal entreprise. Et je pense qu'ils gagneraient au fur et à mesure à dire, bah voilà, là je me suis trompé, on a essayé, on l'a fait de bonne foi, mais là on s'est trompé, il faut corriger.
On peut se passer de conseiller en com quand on est président de la République, vous l'étiez. Est-ce qu'on gagne en naturel? Est-ce qu'on gagne en spontanéité? Est-ce que c'est finalement mieux ou avec ou sans?
Il y a deux façons de concevoir le métier de conseiller en communication. Il y a le conseiller en com, justement, qui peut apparaître comme une personne qui va être là pour, on va dire, mettre des paillettes ou mettre un voile d'ombre sur la réalité. Moi, c'est pas du tout ma conception des choses. Moi, je pense que le conseiller en communication, il doit aider le personnage politique, l'homme ou la femme politique, à faire comprendre ce qu'il fait et à dialoguer avec les citoyens. Quelque part, il doit pousser l'homme ou la femme politique à être le plus naturel possible. Moi, le conseil que je donnais tout le temps à François Hollande, c'est de parler avec ses tripes de la façon la plus naturelle possible. Et on parlait du 13 novembre tout à l'heure. Le soir du 13 novembre, François Hollande a fait une déclaration vers minuit. Et il avait dit, est-ce que je peux avoir un prompteur? Je lui ai dit, non, il vaut mieux ne pas prendre de prompteur parce qu'il faut que le texte sorte de toi, premièrement. Et deuxième chose, je lui ai donné un seul conseil juste avant qu'il aille à son pupitre, c'est dis les choses telles que tu les ressens. Et résultat, il avait dit, c'est une horreur, pour commencer, qui étaient des mots qui avaient frappé. On avait trouvé que c'était très naturel, presque trop naturel. Mais je pense que de cette manière, il avait parlé directement au cœur des Français, et que c'est justement quand on fend l'armure, quand on enlève tous les masques qu'on peut être tenté d'avoir pour se protéger, qu'on est le meilleur, en fait, en communication et en politique.
Et alors, Emmanuel Macron, qui a voulu instaurer cette distance au début avec les journalistes, si bien qu'il a été surnommé Jupiter, qui est une vieille prison, puisque déjà François Mitterrand avait appelé son pupitre le Jupiter. Donc, mais une présidence jupitérienne, c'est-à-dire un peu sur les hauteurs, et en favorisant la communication horizontale avec les Français. Donc à la fois de la verticalité et de l'horizontalité. Donc mettant un peu les journalistes sur le banc de touche. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout l'inverse, et qui rétropédale, et on sent qu'aujourd'hui, il a besoin des journalistes. On a vu, et on en reparlera pendant son itinérance mémorielle, il a beaucoup parlé aux Français, mais il s'est fait aussi piéger par les journalistes.
Piéger, je pense pas que les journalistes aient cherché à le piéger.
Enfin, piéger par l'image ou le son, l'image et le son, en tout cas.
De toute façon, il faut comprendre, et c'est une évidence, vous êtes journaliste, donc vous le savez, que quand un président de la République se déplace, il est toujours suivi par des caméras et des micros. Et donc, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, a vocation à se retrouver soit sur les réseaux sociaux, soit sur les chaînes d'information en continu. Donc, c'est une chose qu'il faut intégrer, il ne faut pas le discuter. Moi, je crois qu'on gagne à davantage de simplicité dans la communication. La simplicité, c'est l'authenticité. Il ne faut pas jouer un rôle, vouloir faire croire qu'on est l'un ou qu'on est l'autre. Il faut être tout simplement soi-même. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut pas questionner ce qui n'a pas à être questionné. Par exemple, la presse, c'est un contre-pouvoir démocratique. On a besoin de la presse. Donc, il faut pas gouverner contre la presse ou sans la presse. Il faut accepter le rôle de la presse parce qu'elle est là pour équilibrer le pouvoir dans une démocratie qui a quand même tendance, en général, à être très concentrée vers l'Élysée.
Avant peut-être d'en venir à d'autres sujets, un mot sur François Hollande encore, parce qu'on dit beaucoup qu'il prépare son retour. Vous qui le connaissez bien, qui l'avez conseillé, vous sentez ça?
s'est pas confié à moi sur ses, son désir politique.
Non, c'est pour ça que je vous demande si vous le sentez, non pas si vous l'a dit.
Non, mais je crois que François Hollande n'a jamais dit qu'il quittait la vie politique.
En effet.
Donc il reste dans la vie politique parce qu'il aime débattre, il aime peser, il aime dire ce qu'il pense. Donc ça, je crois qu'il va continuer à le faire. Après, quel sera son destin personnel? Il y a que lui qui peut répondre à cette question. D'un côté, on sent que sa parole compte encore, qu'il a envie d'être écouté et que peut-être on va dire l'histoire lui rendra justice. Et de l'autre côté, on sent quand même qu'il y a un glissement générationnel, que les gens ont envie de renouvellement. Donc c'est très difficile de savoir si dans un an, dans deux ans, dans trois ans, les gens ont envie ou pas de revoir des figures politiques qu'ils ont déjà eues au cours des dernières années.
On va revenir sur cette itinérance mémorielle la semaine dernière, qui avait bien commencé, mais le président s'est pris en pleine figure l'obus Pétain. Emmanuel Macron aime les démonstrations qui sont intellectuellement sophistiquées, on le voit souvent, mais est-ce qu'elles sont adaptées dans le fond au monde médiatique qui, la plupart du temps, réduit l'argumentation et réduit la pensée? Pas volontairement, mais parce que c'est l'ère médiatique, c'est l'ère de la rapidité, c'est l'ère de l'instantanéité. Est-ce que, du coup, d'aller poser des grands sujets très complexes, historiques, sur le coin d'une table ou au coin d'un...
D'une rue? Bah, moi, je... Il y a manière et manière de faire les choses, et on peut toujours discuter de la manière d'évoquer ces sujets, mais je crois qu'Emmanuel Macron a quand même raison, au-delà du cas Pétain, d'aborder franchement la question de la mémoire. Je pense que c'est vraiment le rôle d'un président de la République. Et d'ailleurs, tous ses prédécesseurs...
Il a été mal compris là-dessus, parce que dans le fond, il avait raison quand il dit de Pétain, il y a le héros de 14, et peut-être, puis il y a le funeste personnage...
Peut-être qu'il aurait dû s'exprimer sur le sujet de façon différente dans le cadre d'un discours. On a beaucoup repassé, c'était intéressant d'ailleurs, les discours qu'avait eu Jacques Chirac, le général de Gaulle ou Valéry Giscard d'Estaing sur le même sujet. Et en fait, ils avaient tous décidé justement d'en faire des discours dans lesquels, c'est vrai, on peut déployer une argumentation sur plusieurs minutes.
Peut-être que
sur un sujet aussi complexe, il faut prendre le temps d'expliquer et d'aller au fond des choses. Parce que là, ce qu'on ne pouvait pas comprendre immédiatement si on n'était pas un spécialiste de l'histoire, c'est qu'Emmanuel Macron, derrière le mot funèse, voulait certainement dire que Philippe Pétain avait été condamné pour dégradation nationale et qu'il avait été complice de l'occupant qui était l'État nazi qui avait déporté les Juifs.
Frédéric, juste avant, je vais vous laisser la parole après, mais j'avais juste une dernière question sur l'impopularité qui a frappé François Hollande, elle a frappé bien des autres. Elle frappe de plein fouet Emmanuel Macron après un départ en fanfare. Est-ce que dans le fond, les institutions, la Ve République ne dévore pas ses présidents?
On voit qu'il y a un problème institutionnel à l'évidence, que Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, à peu près au même moment, c'est dans au bout d'un an, un an et demi, ont commencé à dévisser dans les sondages. C'est une très mauvaise nouvelle parce que ça montre la défiance qu'il y a entre les Français et le président de la République. Peut-être que les présidents de la République, quand ils sont candidats, promettent trop de choses.
Et les Français attendent trop aussi.
Et peut-être qu'ils attendent trop. Mais bon, je ne mets jamais en cause les Français. Je pense que eux, ils écoutent ce qu'on leur dit et ils ont raison de vouloir le croire. Après, peut-être qu'on leur promet trop de choses.
Deux sujets d'actualité plus immédiate, enfin pour l'un en tout cas, les Gilets jaunes, le mouvement de protestation qui va avoir lieu samedi prochain. Vous avez dit il y a quelques jours, ce genre de mouvement, ça me fait peur. On sent qu'il y a un côté poujadiste et populiste. Je n'aime pas ces mouvements pleins de rage, difficiles à maîtriser. Est-ce que ça veut dire que vous avez peur de l'expression populaire spontanée?
Non, je comprends la cause de ce mouvement, enfin les causes, en tout cas la crainte pour le pouvoir d'achat, la hausse des carburants qui doit frapper quand même au portefeuille les catégories les plus modestes, les plus populaires. En revanche, même si moi je suis intéressé évidemment favorable à la liberté de manifestation, je trouve que là ça prend un tour qui est très très anxiogène, très difficile, très dur. Et tout ce que je souhaite, c'est que les gens puissent
manifester. Parce que ça n'est pas structuré.
Non, c'est de l'ordre du feeling, je peux pas le prouver, et surtout j'espère pouvoir me tromper. C'est bien que les gens puissent se manifester librement. C'est un droit constitutionnel, une liberté publique fondamentale. En revanche, il faut que ça se fasse dans le calme et de façon ordonnée, parce que s'il y a des débordements, s'il y a de la casse, comme on a pu l'observer par le passé dans d'autres mouvements de ce type, là ça se retournera contre tout le monde et d'abord contre les libertaires.
Et en communication, comment il faut y répondre ?
Je pense qu'il faut expliquer. Là, ils ont commencé à le faire pour le coup, parce que j'espère.
Oui, mais expliquer. De toute façon, les Français, ils vont à la pompe et voilà, ils payent plus cher. Donc expliquer.
Oui, mais je crois
qu'il y a des sujets.
Oui, mais il y a des moments où il faut aussi assumer ses choix. Je crois que les gouvernements François Hollande puis le gouvernement d'Emmanuel Macron ont suivi la même direction par rapport à la fiscalité écologique. L'idée d'alourdir la fiscalité sur les carburants polluants. Je pense qu'ils ont raison de le faire. Alors là, Emmanuel Macron, quelque part, joue de malchance, puisque en même temps, il y a une hausse du prix du baril de pétrole, et que par ailleurs, il y a eu d'autres taxations, type la CSG et autres. Donc l'addition est particulièrement salée pour les Français. Mais par contre, j'espère qu'ils ne vont pas revenir sur l'idée d'avoir un effet prix pour inciter les gens à prendre des énergies moins polluantes.
Il nous reste à peine 3 minutes pour parler de Paris, des municipales de 2020. Donc, a priori, vous serez candidat, mais pour l'instant, ça n'est pas encore une déclaration officielle.
Que je prends les choses dans le bon ordre. Alors, je préfère parler d'abord du fond avant de parler des candidatures.
Justement, vous avez dit, si je suis candidat à Paris, ce sera pour dire Paris sera de nouveau une fête. Est-ce que la fête, ça tient lieu de programme?
Je pense que c'est un bel objectif, parce que derrière la fête, il y a l'idée du rassemblement. De quoi on souffre à Paris? Du repli sur soi. Les gens ont le sentiment que la ville se ghettoise. Des ghettos de riches, des ghettos de pauvres, des ghettos parfois identitaires. Et les gens sont, il y a un risque de séparatisme à Paris. Les gens sont guettés par le repli sur eux-mêmes. Et je pense que l'objectif du prochain maire de Paris, ça doit être de rassembler les gens. Qu'on soit notre économie dans le 16e, le 19e, le 18e ou le 13e, nous sommes tous des Parisiennes et des Parisiens. Nous voulons vivre ensemble, nous voulons prendre les mêmes transports en commun, avoir accès au même logement, circuler librement dans la ville.
Vous êtes sûr que c'est ce que veulent les Parisiens, ça?
Ah, je pense que les Parisiens, en fait, ils n'ont pas envie de repli sur soi, ils n'ont pas envie de séparatisme, ils ont envie de se retrouver de façon collective. C'est ce que je ressens profondément. Moi, tous les jours, je fais des réunions d'appartements, des réunions dans des bars à 10, 20, 30 personnes pour discuter de Paris. Et ce que je ressens profondément, c'est discuter sur la vie quotidienne, la sécurité, la propreté, le logement, les transports, mais aussi une envie de se retrouver. Les gens ont envie de se retrouver, de partager des choses
Paris
ensemble.
Et on n'est pas les. Bah, je pense qu'on a c'est Jacques Lang qui l'avait noté le premier.
Bah, notamment, mais il n'a pas été le seul. C'est vrai que la propreté se dégrade malgré les efforts, on va dire, des services de la propreté de la ville de Paris, parce que je pense que le service public dysfonctionne. La collecte des ordures fonctionne plutôt bien. En revanche, il n'y a pas assez de mobilisation sur le nettoyage des rues au quotidien. C'est-à-dire que vous voyez rarement.
Il y a de plus en plus de rats.
Oui, mais c'est lié au problème précédent, c'est-à-dire que les rats ne font pas la cause.
Ça la travaille beaucoup.
C'est parce que les rues sont sales. Et il ne faut pas dire trop de mal des rats. Vous savez qu'on, comment on dit,
ils sont très intelligents.
Comment on dit rat en argot? Gaspard.
Voilà.
Oui, le Gaspard. Il nous reste pas suffisamment de temps pour se lancer dans un nouveau sujet. Et un peu trop pour arrêter tout de suite.
Le périph', c'est embarrassant.
En 10 secondes, alors.
J'ai annoncé pourquoi je voulais supprimer le périph'. 1, parce que c'est trop cher, c'est trop polluant, ça ne règle aucun problème et ça nous sépare de la banlieue. Or, on a besoin de se rapprocher de la banlieue pour faire un grand Paris qui soit à la taille des grandes villes européennes.
On fait quoi à la place?
On fait un boulevard urbain, des métros, des voitures autonomes et des espaces verts, j'espère.
Eh bien, nickel, c'est rentré dans le timing. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, merci beaucoup et merci à vous. Et merci à Charlotte Turien-Tomaka et Camille Nérand d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique pour avoir les réalisés. Merci.